Tom, si t'es pas sage, pas de Père Noël cette année.
Papa, t'as quel âge déjà ?
50% pourquoi ?
Et à 50%, tu crois encore au Père Noël ?
Avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge plus 10 ans égale votre pourcentage de réduction. À 50 ans, c'est 60% de réduction sur votre monture. Et c'est jusqu'au 12 décembre. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 22h pour des histoires, des secrets, des anecdotes, des passions. Et Thomas Hugues.
Ça va Sidonie?
Oui. J'aime bien vous mettre à la fin de tout ça.
Oui, c'est gentil. En tout cas, vous pouvez réagir comme tous les soirs au 3210 sur RTL.fr et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec le mot dièse La Curiosité RTL. Vous pouvez aussi nous envoyer des idées d'interviews, des thèmes que vous voudriez voir abordés dans l'émission. C'est Sarah qui attend vos réactions. Alors au programme, effectivement, je le disais, Christine et ses reines.
Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains.
Christine and the Queens, alias Héloïse Letissier, la française la plus influente à l'étranger. Vous l'avez entendu à l'instant, c'est le magazine Vanity Fair qui le dit. On vous racontera ce destin hors norme.
Et puis, les dessous, coquins, des reines qui miaulent parfois, comme Catherine de Médicis, des rois comme Louis XIV et des empereurs, Charlemagne ou Napoléon III. Il sera question, entre autres, de bataillons de beauté, de petites claques sur les fesses, d'érotomanie et de chaud de pisse.
Et tout de suite, on joue à chat.
RTL. Le chat d'un voisin qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ron, 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 et vive le chat, et vive le chat.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai un beau pédigré qui dort sur un truc en chinchilla. Naturellement, les aristochats.
RTL.
À pas de velours.
Jusqu'à 22h.
Ils volent l'amour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un chat.
D'une oreille, vous écoutez Yves Montand, téléphone, Corinne qui chante, la bassiste, Henri Salvador, et d'une main, vous caressez votre chat tout en nous écoutant, la soirée est belle, ou alors bien au contraire, vous avez horreur des chats. C'est pas grave, cette histoire va vous passionner, l'histoire de ce félin, grâce à notre invité, l'écrivain Bernard Werber. Bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir au micro de La Curiosité, c'est une première pour nous.
Merci.
Vous avez un chat, j'imagine?
J'en ai eu 3, et là le dernier, après avoir écrit le livre, je me suis dit qu'il serait plus heureux à la campagne, donc je l'ai mis chez des amis qui ont une maison, il peut jouer dehors. Je me suis dit, un animal en appartement, finalement c'est aberrant. Au fur et à mesure que j'ai écrit le livre, j'ai eu
même
un chat. Même un chat.
Ouais.
Qu'ils ont envie de grimper aux arbres, ils ont envie de poursuivre les petits mulots, les oiseaux, ils ont envie d'être dans la nature.
Comment il s'appelle ce chat et comment vous l'avez rencontré ?
Mon chat s'appelait... s'appelle, je dis s'appeler parce que je l'ai pas vu aujourd'hui, Domino, et c'est l'écrivaine Stéphanie Janicot qui me l'a offert. Elle m'a dit, voilà, on l'appelle Domino parce qu'il est blanc et noir, mais je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Finalement, c'était une femelle. Et il s'avérait que c'était même une femelle très possessive, très jalouse et un peu diva.
Alors ce qui est marrant, Bernard Werber, c'est que vous rêviez d'avoir un chat. Depuis que, quand vous étiez journaliste, vous avez fait l'interview d'un autre écrivain qui lui avait un chat, et ça vous donnait envie l'atmosphère que ce chat crée dans la pièce. C'était qui, c'était quoi ?
C'est Patrick Covin, donc l'écrivain de Égal MC2, Mon Amour. Et je l'avais interviewé. Et j'ai vu un type devant son ordinateur avec le chat à côté. Et j'ai senti que le chat nourrissait et calmait l'écrivain. Et à l'époque, j'étais journaliste, donc je me rappelais l'ambiance au bureau qui était très stressante. Je me suis dit, voilà la sérénité absolue. Seul, tranquille, un chat à côté qui miaule. Et c'est marrant parce que bien plus tard, j'ai visité la maison d'Hemingway et c'était exactement le même décor. C'est-à-dire, lui, c'était une machine à écrire et il y avait l'emplacement du chat et le chat le regardait pendant qu'il écrivait.
Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ce chat que vous êtes devenu écrivain aussi, Bernard Werber ? Vous avez quitté le boulot de journaliste ?
C'est plutôt les fourmis qui vous ont fait connaître, hein, quand même.
Oui, c'est les fourmis auxquelles je dois beaucoup. Mais l'avantage du chat par rapport aux fourmis, c'est que le chat vous regarde. Alors qu'une fourmi, elle vous sent et vous n'êtes pas sûr qu'elle s'intéresse réellement à vous. Alors que mon chat, ma chatte, elle m'observait et je me disais, elle a l'air de vouloir vouloir me dire quelque chose. Donc c'est ça qui m'a inspiré, entre autres, le bouquin.
Alors, ce livre, ce roman, Demain les chats, qui est publié aux éditions Albin Michel, vous avez raconté la vie de deux chats extraordinaires qui vivent à Paris, à Montmartre. Ce sont eux les narrateurs, ce sont eux qui parlent dans le livre, c'est ça?
C'est elle, c'est Bastet. C'est Bastet qui raconte sa vie de chat, et elle a une obsession, c'est discuter avec sa servante, elle n'appelle pas ça sa maîtresse, sa servante humaine. Elle a envie de lui communiquer directement ses désirs, et l'un de ses plus forts désirs, c'est d'arrêter qu'on lui ferme les portes. Enfin, de demander à sa servante qu'elle arrête de fermer les portes, parce qu'elle supporte pas d'être coincée dans une pièce. Et ça, j'ai réfléchi, j'ai essayé de me mettre à la place d'un chat, et j'ai vu aussi ce qui a agacé le plus Domino, c'est ne pas pouvoir pénétrer dans une pièce. Je vois.
Oui, de pas pouvoir décider.
J'ai une question à vous poser, est-ce que vous avez vous-même des chats, vous en avez eu?
Non, moi j'ai pas de chat, et j'avoue, j'aime pas trop ça.
Moi non plus, mais Gérald Chaland, notre producteur, acquiescé,
il en a eu trois
chats, donc voilà.
Je crois qu'une fois qu'on a un chat, c'est une expérience qu'on n'oublie pas, parce que quel que soit le vécu avec le chat, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux expériences de chat qui sont similaires. Mon chat, par exemple, aboyait et aimait être sous l'eau ou aller au bain, donc je pense que tous les chats ne sont pas comme ça.
Et, il était atypique. qu'il était atypique.
Le fait d'aboyer, je pense qu'il y aura d'autres auditeurs qui auront peut-être des chats qui aboient, mais il aboie exactement comme un chien.
Ah oui.
Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être il a dû l'entendre ça une fois et il s'est.
Il a trouvé ça cool.
Il a bouffé un perroquet et donc.
Bernard Werber, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, cette chatte, Bastet, pense donc que le monde et les humains sont à son service. C'est comme ça que pensent les chats, entre guillemets, si vraiment ils pensent. C'est-à-dire ils se sentent les rois du monde, contrairement aux chiens.
Déjà, un chat, il aime toujours être en hauteur pour vous regarder de haut. Donc il va chercher les points élevés. Et deux, au moment où il vous regarde, vous sentez qu'il n'est pas du tout impressionné par vous, quoi que vous fassiez, même si vous avez des objets bizarres et tout. Je commence ce livre d'ailleurs par cette phrase. Ils nous nourrissent, ils nous protègent, ils nous aiment. Donc ce sont nos dieux, pense le chien. Ils nous nourrissent, ils nous aiment, ils nous protègent. Donc je suis leur dieu, pense le chat. C'est toute la clé de la problématique, c'est que le chat a décidé, par rapport à la même situation, que tous les humains étaient à son service et qu'en fait tout l'univers est à ton service. Donc sa problématique, c'est comment être encore plus heureux, encore plus confortable. Et je pense que ce sont les chats qui ont dû apprendre aux hommes le yoga. Parce que quand vous regardez.
On va
en
parler tout à l'heure, ça.
Il est tout le temps en train de se détendre.
Oui, alors on va rentrer dans le détail de cette démonstration qui est assez géniale. Et si. Là, vous êtes en train de nous écouter. Vous avez des chats, vous avez des anecdotes, des histoires à nous raconter. N'hésitez pas, appelez-nous au 3210. Tiens, par exemple, sur leur ronronnement. Alors, on a trouvé ça sur Internet, sur YouTube. Détendez-vous avec Rookie. C'est une heure de ronronnement continu enregistré par Jean-Yves Gaucher. C'est un vétérinaire. Qu'est-ce qu'il a inventé?
Et c'est même dans le livre de Bernard Werber. Ouais. C'est un petit conseil d'écoute.
Alors, en fait, c'est par le plus pur des hasards, ma sœur qui vit à Toulouse et qui est dermatologue, comme voisin, vétérinaire, qui est ce docteur Jean-Yves Gaucher, et elle m'a dit, tu devrais le rencontrer, il est sur une voie de recherche nouvelle, qui est la ronron-thérapie. C'est lui qui a inventé d'ailleurs le mot.
La ronron-thérapie.
Voilà, et il a découvert que le chat ronronne entre 15 et 200 Hz, et qu'à cette longueur d'onde, en fait, ça nous calme. Donc une personne qui a un chat va être moins stressée qu'une personne qui n'en a pas. Mais il a découvert quelque chose de nouveau, c'est que ça agit aussi sur la reconstitution des os. Parce qu'en fait, si vous avez un chat, vous êtes aperçu, il monte aux arbres. Oui. Et en fait, il ne sait pas descendre. C'est-à-dire que les griffes sont faites pour monter, mais pas pour descendre. Ça a été mal conçu dès le départ, l'animal.
Et d'ailleurs, les pompiers, on aura le bol d'intervenir. Voilà. Donc maintenant,
je crois que ça coûte 200 euros.
Ça coûte des sous maintenant. Ouais.
Et normalement, il monte haut et après, il saute. Mais seulement, des fois, il monte tellement haut qu'il ne peuvent plus sauter, donc là ils se mettent à appeler au secours
et ils aboient.
Ils aboient et ils se cassent la figure, ils se cassent les os, et donc peut-être il y a une adaptation qui s'est faite à travers le temps. En ronronnant, ils se ressoudent eux-mêmes leurs os, et c'est ce que m'a expliqué donc ce docteur. Et en effet, il a produit ce ronronnement. D'ailleurs, on peut l'écouter en boucle, ça dure une heure.
On va s'en faire quelques secondes, hein. Peut-être pas une heure.
Je me sens détendu là, c'est génial.
En même temps, vous n'étiez pas super nerveux.
Non, pas très.
Au moment où le chat vous ronronne, enfin pour ceux qui ont des possesseurs de chats, ils ont dû s'apercevoir, ils vous regardent et ils vous disent, regarde le cadeau que je te fais. Ouais. Ils vous regardent avec la volonté de vous faire du bien. Et c'est ça qui est surprenant et impressionnant.
Alors quand sont apparus ces petits anges, ces premiers chats sur Terre, comment sont-ils devenus nos compagnons? Réponse tout de suite, les curieux.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ronron thérapie au menu de la curiosité avec notre invité l'écrivain Bernard Werber. Évidemment, vous réagissez, Isabelle qui nous appelle de Gironde, Saint-Julien-Bechevel. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Ça passionné par les chats. J'en ai 4. Ils ont 20 ans, 10 ans, 7 ans et 2 ans. Je trouve que ce sont des animaux élégants, majestueux. Ils ont la classe. Vous avez raison, ça fait réagir, Bernard Werber. Comme les pots, effectivement, ils ont la classe. Alors, on va faire un peu d'histoire, si vous voulez bien,
oui.
Parce que j'imagine que pour préparer ce livre, vous êtes documenté. Si on raconte l'histoire des chats et des hommes, sait-on quand les premiers chats ou les ancêtres des chats apparaissent sur Terre? C'est il y a très longtemps, j'imagine.
Oui, de manière étonnante, on a beaucoup de documentation sur le rapport entre les hommes et les chats,
oui.
Parce que chaque fois que les hommes ont découvert les chats, ils l'ont noté. Donc on l'a retrouvé dans plusieurs textes égyptiens, indiens, chinois. Chaque fois, l'arrivée des premiers chats, c'est un choc. Il faut voir déjà, c'est pas un animal qui a été capturé et forcé à venir dans les villes. Le rapport s'est passé au moment où l'homme a commencé à faire de l'agriculture. Il a eu des céréales. Dès le moment où il a eu des céréales, il a eu des souris. Et dès le moment où il a eu des souris, les souris ont attiré les chats.
C'est génial. Donc c'est la sédentarisation
de l'être humain qui
provoque le rapprochement.
Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il s'est créé une synergie. C'est-à-dire que le chat et l'homme sont aperçus. Ça s'est passé en Éthiopie, en Abyssinie. Donc tous les chats viennent du même endroit. Il semble qu'ils soient apparus. D'ailleurs, l'être humain est apparu aussi dans cet endroit-là.
Mm-hmm.
Donc, ils sont probablement apparus en même temps. Mais le rendez-vous s'est fait au moment de l'agriculture.
Parce que ça veut dire que jusqu'à ce moment de l'agriculture, donc c'est à peu près... ils vivaient sans se croiser. Ils avaient peut-être peur des chats, les hommes.
C'était des petits tigres, c'était des petits lynx. D'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le chat n'a pas vraiment muté. C'est-à-dire que le chien... Jadis, c'était un loup. On voit vraiment la différence entre un chien et un chihuahua, par exemple, ou un pékinois. Le chat, si la civilisation humaine s'arrêtait, il serait probablement très bien adapté à la vie sauvage, car il n'a pas perdu tout son côté sauvage et son côté indépendant. Contrairement au chien, il ne s'est pas compromis avec l'homme au point d'abandonner ses réflexes.
Vous imaginez ça dans votre livre « Demain, les chats » publié chez Albin Michel. L'après-humanité et le pouvoir pris par les chats, c'est ça en quelque sorte?
C'est un animal qui nous survivra, oui. Je pense que s'il devait y avoir une guerre mondiale, même de la pollution et une réinvasion végétale, en imaginant une apocalypse, le chat arriverait à trouver des adaptations, car c'est un animal très adaptatif. Et c'est un animal aussi qui sait s'adapter aux arbres, à la vie de la jungle. Un chien, je ne suis pas sûr qu'il survive dans une forêt, mais un chat va survivre dans une forêt.
Dans votre roman, Demain, les chats aux éditions Albin Michel, Bernard Werber, votre héroïne s'appelle la chat Bastet. Elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. Qui était-elle, Bastet?
Alors, Bastet, il faut voir déjà, quand on s'est créé les premières religions égyptiennes, ils ont fait un culte des lions à la déesse Sekhmet. Et donc, ils ont créé des temples avec des lions. Seulement, leur prêtre se faisait manger trop régulièrement.
C'est fâcheux.
Donc, il y en a un qui s'est dit, on va peut-être prendre l'animal en dessous. Il a inventé une sœur, la sœur Bastet, qui est une femme à tête de chat qu'on trouve dans beaucoup d'illustrations. Et là, il y a eu des temples avec des chats, et les chats, en effet, se sont très bien adaptés aux prêtres.
Quel petit nom les Égyptiens donnaient aux chats?
Miou.
C'est drôle.
C'est le nom qu'on retrouve pratiquement partout. Le chat, chaque fois le fait qu'il miaule a impressionné les hommes. La sonorité, cette sonorité étrange, on la retrouve aussi en Chine et en Inde.
Un peu aiguë, perçante.
Bastet, qui était donc cette déesse à tête de chat, vénérée par les humains et par les femmes, c'était quoi le culte?
Alors il y a eu un culte qui se passait dans la ville de Bubatis, dans lequel tout le monde devait se déguiser en chat. Les femmes se faisaient des plaies dans lesquelles elles se mettaient du sang de chat pour pouvoir devenir un peu plus chat, et elles avaient des maquillages dans lesquels elles essayaient de ressembler au chat, et tout le monde se mettait à miauler, à manger, à faire la fête. Et l'Égypte l'Égypte ancienne a vénéré le chat, au point où si un homme frappait un chat, il avait des punitions, il y avait des supplices corporels, et si jamais il tuait un chat, c'était puni de peine de mort. Donc le culte des chats a duré de moins 2000 à moins 500, et c'est un culte qui s'est manifesté aussi par le fait que dans les sarcophages, il y avait des cadavres de chats qui étaient momifiés. Donc ils traitaient les chats exactement comme ils traitaient l'homme.
Pourquoi ça s'arrête?
Une tragédie, en 525 avant Jésus-Christ, un roi, Cambyse II, c'est le roi des Perses, il envahit l'Égypte, et là
Alors, d'abord, ça faisait longtemps qu'il voulait envahir l'Égypte, mais il se retrouve bloqué par une armée égyptienne suffisamment solide. Et quelqu'un lui dit, mais vous savez, les Égyptiens vénèrent les chats. Et on lui donne l'idée d'accrocher des chats vivants sur les boucliers. Il attaque avec des chats vivants sur les boucliers. Et donc, du coup, les Égyptiens n'osent pas tirer des flèches et se laissent envahir. Et Cambyse II va non seulement prendre la capitale, il va tuer le pharaon, il va tuer tous les prêtres, il va détruire tous les temples et il va tuer tous les chats. Et il va dire « Je suis le nouveau pharaon » et à partir de maintenant s'arrête le culte des chats. Et ce culte va se répandre à ce moment-là par les Phéniciens dans tout le bassin méditerranéen.
Alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure Bernard Werber, mais on va détailler ça. Les chats auraient-ils inventé le yoga ? Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Quant à lui, moi j'ai rien. Je ne peux plus rester sans rien.
Je t'avais dit que je t'aimerais toujours, ben je me suis gouré, j'ai vieilli, puis je t'aime plus, puis c'est tout.
Voici.
Miaou, miaou, miaou !
La curiosité est un vilain défaut.
Félix le chat, tu ne me rattraperas pas.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Chantal Goya, Garfield et puis Simone Signoret qui miaule au visage de Jean Gabin, bien sûr, dans le
comment
film.
Comment vous dire,
le
Chantal
chat.
Goya qui chante pendant le chat avec Gabin, ça, y a comme un truc qui, je sais pas, ça sent trop choc, quoi.
Dans la tête de notre réalisateur qui fait les mises en œuvre, André Facetta, c'est un sacré
beans dans sa tête, oui, c'est ça.
Il y a 10 000 ans, les hommes et les chats ont eu un vrai coup de foudre. Depuis, ils sont inséparables. Il y a ceux qui aiment les chats et ceux qui ne les aiment pas trop, mais dans la curiosité, on vous passionne pour leur histoire, pour l'histoire de ce félin qui a conquis les cœurs avec l'écrivain Bernard Werber. On suit leur introduction dans la vie quotidienne de toutes les civilisations et des peuples. Ce qui est fascinant, c'est que vous nous racontez qu'à chaque fois qu'un peuple rencontre un chat, ça apparaît dans les écrits parce que c'est une telle révolution. Ils protègent leur nourriture, ils deviennent des divinités. Et puis on peut les. C'est aussi une monnaie d'échange, par exemple en Inde. On est en 1000 avant Jésus-Christ. Et là, le chat arrive. Et pareil, c'est un succès immédiat. Qu'est-ce qu'on en fait des chats là-bas ?
Alors, les chats ont toujours servi à protéger les récoltes. Ils vont inventer une déesse à tête de chat qui ressemble exactement à Bastet. Et après, leur progression va se répandre dans la population, notamment. Alors, ce que je disais, c'est une hypothèse, mais le yoga montre les étirements, enfin, qui ressemble aux étirements du chat. Et je crois que toute personne qui a un chat chez elle s'aperçoit qu'au bout d'un moment, c'est une leçon de gymnastique. Le chat va toujours à l'endroit où il va pouvoir s'étendre, où il va pouvoir trouver ses repères. Il va pouvoir trouver des équilibres. Moi, ma chatte, par exemple, elle aime bien marcher sur la rambarde au quatrième étage, donc. Elle aime bien me faire peur et elle me montre qu'elle trouve tout le temps ses équilibres et par moments elle fait semblant d'être déséquilibrée rien que pour me créer une émotion de pure trouille et de me contrôler. Mais ça c'est typique des chats, c'est-à-dire ils veulent être les stars. Ils veulent qu'on les regarde et une fois que vous les avez regardés, ils vous font comprendre que vous ne l'intéressez pas parce que c'est eux la star.
Ouais.
Donc ils vont avoir un énorme succès en Inde, ils vont avoir un énorme succès en Chine, en Corée. Au Japon, où ils vont être offerts, on a la date précise où ils vont être offerts à l'empereur, et l'empereur va lancer cette mode. Dans tous les endroits, il y a un point commun, c'est que c'est le cadeau qu'utilisent les hommes pour draguer les femmes. Vous offrez un petit chaton, ça veut dire que vous avez envie de faire l'amour avec cette femme.
Ah oui, c'est kawaii, c'est mignon comme on dit
voilà,
au Japon.
On le retrouve partout. Côté occidental, ça va être les Grecs qui vont utiliser ça comme objet de cadeau, des fleurs, des chocolats. Non, pas de chocolat, des fleurs ou un petit chaton. Les Romains, pareil, reprennent cette tradition. Au moment où ça va arriver en France, il faut voir que la chrétienté qui est en train de se constituer, donc 350 après Jésus-Christ, va décider que le chat est un animal maléfique.
Oh, ça, on prendra le temps d'en raconter tout
voilà,
à l'heure, parce que c'est assez impressionnant.
Et là, c'est la fin de la gloire des chats, en tout cas dans cette zone du monde.
Bernard Werber, vous racontiez le côté stratège, finalement, de votre chat,
Bastet.
Bastet, autre histoire, tiens, que nous raconte Nicole, qui nous appelle au 3210 depuis la Charente-Maritime. Écoutez bien, très bonne histoire. J'ai un chat et un dog allemand. Mon chat a nargué un chat plus gros que lui, a fait en sorte que l'autre lui court après. Alors, mon chat s'est assis à côté du dog allemand et narguait encore plus l'autre chat. S'il le pouvait, je pense que mon chat aurait ricané. C'est génial. Merci Nicole pour cette histoire savoureuse.
Il y a de l'humour, il y a de la cruauté, il y a de la perversion chez cet animal, ce qui fait partie du spectacle et du plaisir d'être avec eux. C'est-à-dire, on s'ennuie jamais avec un chat, parce que le chat fait des trucs complètement dingues qui ressemblent à des choses d'un être humain ou d'un enfant, voilà.
C'est pas de l'anthropomorphisme, ça. C'est pas nous qui projetons sur nos animaux de compagnie.
Il y a une part forcément
voilà, d'anthropomorphisme. Des sentiments, des pensées, etc.
Mais quand ils font une connerie, ils vous regardent en même temps dans les yeux. Alors, vous dites, bon, il l'a fait consciemment. Oui. Il l'a fait pour voir notre réaction. Mmh. Par exemple, si je me mets à taper sur l'ordinateur, le chat va arriver pour piétiner exactement tout ce que j'ai écrit, puis il me regarde dans le style, t'as vu, j'ai foutu en l'air tout ton manuscrit.
qui veut vous dire, mais regarde, j'écris beaucoup mieux que toi.
Non, surtout, il va me dire, pourquoi tu t'intéresses à l'écran au lieu de t'intéresser à moi?
Bah oui.
Je suis la star dans cet appartement, il n'y a que moi qui est important. D'ailleurs, il ne supporte pas... À l'époque où je l'avais à la maison, il ne supporte pas de journaliste. Donc il attaquait
les
micros.
Vous avez bien fait de ne pas l'emmener.
Il attaque les fils des micros. Dès qu'il voit un fil de micro, il s'y attaque. Mais s'il y a des fils qui ne sont pas de micro, il sait les reconnaître. Je ne sais pas comment il s'y prend. Mais voilà, c'est une sorte d'obsession.
Vous auriez dû le prêter à François Fillon hier soir quand il a été blessé par un photographe.
Il y a un homme très puissant qui détestait et qui avait très peur des chats, c'est Jules César. De quoi était-il atteint?
Alors, cette maladie s'appelle la lourophobie. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jules César ne supportait pas les chats. Mais par contre, c'est l'armée romaine qui a répandu les chats, notamment en Gaule et dans l'intérieur de l'Europe, parce que les soldats romains avaient besoin un peu de douceur, un peu de tendresse, et ils les trouvaient auprès des chats. Donc, ils cachaient les chats dans les boucliers. Et même lors des charges, il y avait par moments des chats cachés derrière les boucliers romains. En tout cas, c'est ce qui est raconté dans la guerre des Gaules.
En tout cas, c'est sympa d'apprendre ce mot. L'élourophobie, Elouro, c'est le chat
c'est
en grec.
Voilà.
Et phobie, c'est la trouille, évidemment, on le sait. Le chat ou l'histoire d'un chat adoré par toutes les civilisations, sauf quand le christianisme pointe son nez. On vous raconte ça dans un instant, les curieux.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les chats sauvages, évidemment, et Dick Rivers pour lancer notre dernière séquence consacrée aux chats avec l'écrivain Bernard Werber. Alors, depuis tout à l'heure, grâce à vous, on a appris que, par exemple, tiens, dans l'Antiquité, les Égyptiens vouaient un culte à la déesse Bastet et que les femmes s'ouvraient les poignets pour se mettre du sang de chat pour essayer de ressembler un peu plus aux chats. Vous nous avez dit aussi que c'est l'armée romaine qui a diffusé, en quelque sorte, les chats en Gaule et en Europe, en tout cas, tel que César l'a raconté dans la guerre des Gaules. Ça a duré jusqu'à l'avènement du christianisme dans l'Empire romain, donc à la fin du 4e siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Que décide l'empereur Théodose Ier, c'est ça?
Il interdit aux chrétiens de posséder des chats. Et ça va créer des problèmes bien plus tard. Je fais un saut, puisque c'est la dernière séquence, je fais un saut.
Oui.
Ça va créer deux problèmes. C'est que en 1300 et en 1600, au moment où il y a la peste, il n'y a que les possesseurs de chats qui sont protégés, parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était les rats qui transportaient la peste. Et donc, tous ceux qui avaient des chats étaient protégés des rats, et donc de la peste.
Alors, pourquoi cet empereur Théodose Ier décide d'interdire les chats?
Parce que
pourquoi c'est contre la religion, contre
culturel.
Le christianisme?
En fait, c'est parce que c'était associé au culte païen, vu que les Grecs et les Romains et les Phéniciens aimaient les chats et qu'ils voulaient se démarquer. Et puis, il y avait cette idée, le chien est l'animal fidèle qui est obéissant, alors que le chat est un animal qu'on ne peut pas apprivoiser et qui a une personnalité. Donc ça a agacé toutes les personnes qui voulaient contrôler. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de César, mais Napoléon non plus, Hitler non plus, n'aimait pas les chats pour la même raison, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on ne peut pas apprivoiser, ouais. On ne peut pas lui donner d'ordre.
On ne peut pas mater même.
On ne peut pas mater.
Oui, alors que les chiens deviennent des soldats. Toutes les armées utilisent des chiens.
D'ailleurs, il y a des chiens policiers, il n'y a pas de chats policiers. Mmh. Et c'est assez révélateur. De même que le chien va rester avec un clochard qui a raté sa vie, alors que le chat, dès que l'humain a raté sa vie, considère qu'il n'a pas de temps à perdre avec des losers, il va chercher un autre maître.
Quel
donc,
caractère.
C'est pas un animal.
Ça vous le rend sympathique, ça, le chat, malgré tout?
Il est particulier. Ouais. C'est vrai que si on veut de l'amour absolu, il faut prendre un chien. Ouais. Si on veut observer quelque chose de nouveau et de mystérieux, il faut prendre un chat. Et c'est pour ça que c'est un héros de roman extraordinaire, parce qu'il est mystérieux, il est compliqué, il est pervers, et en même temps, moi j'estime qu'il nous vole du bien. bien puisqu'ils viennent ronronner pour nous faire du bien. Et quand on est malade, ils viennent vraiment. Donc je crois qu'ils ont, ils sont à l'écoute de nous et en même temps, ils veulent nous aider. C'est pour ça que ma Bastet, en fait, elle veut carrément sauver l'humanité à sa manière et à son niveau.
Alors ça, c'est le personnage principal de votre roman Demain les chats qui est publié chez Albin Michel. À propos de thérapie, de zoothérapie, c'est le terme qu'on emploie. On en parlera demain avec, avec une vétérinaire qui sera notre, notre invitée qui nous racontera des histoires d'hommes et d'animaux. Ce sera de 20h à 22h demain, soyez là.
Qu'est-ce qu'on leur fait à ces chats quand, quand ils sont interdits lors de l'avènement du christianisme, donc on est en 390 après Jésus-Christ? On décide de quoi? On donne un permis de tuer? On doit s'en débarrasser? Ils vont souffrir?
Il va y avoir les fêtes de la Saint-Jean dans lesquelles les chrétiens doivent attraper tous les chats qu'ils peuvent et les jeter dans des grands bûchers. Ces fêtes de la Saint-Jean vont s'arrêter à peu près à 1600 au moment où Louis XV aimait les chats. D'ailleurs, Louis XIV ne les aimait pas et Louis XV les aimait. Et après, après cette époque, ils deviennent hyper à la mode. Et actuellement, les chats connaissent un succès extraordinaire. C'est-à-dire, à partir de 1600, on va dire, ils sont sortis de leur enfer et ils ont pu se répandre comme animal, en même temps dans le monde artistique et dans le monde affectif.
Mais de 500 à 1600, ils vont manquer, les chats, aux hommes, parce que finalement, s'ils ne sont plus là, ils ne protègent plus les hommes des rongeurs. Ça va se passer comment? Est-ce que quand même, certaines catégories de population, par exemple les paysans, vont pouvoir garder leurs chats?
Alors les paysans vont garder les chats malgré l'interdit du christianisme. Il faut voir que les gens qui n'avaient pas des chats étaient obligés de prendre des fouines ou de prendre des belettes, qui étaient des animaux beaucoup plus agressifs et qui sentaient pas bon. Ce que prenaient déjà les Grecs et les Romains avant l'avènement du chat, ils avaient des fouines et des belettes. Mais le chat est un progrès dans la lutte contre les souris, on va dire, et dans la protection des récoltes.
Bernard Werber, vous l'avez évoqué rapidement à l'instant, les grandes pestes, on a d'abord accusé les chats, c'est ça? Propager la rage, de propager la peste?
Oui, vu que les possesseurs de chats étaient les seuls à survivre, la population a déduit que c'était les possesseurs de chats qui étaient responsables. Donc il y a eu en Angleterre notamment, et en France et en Allemagne, des grands massacres de chats après les pestes, ce qui a entraîné souvent le fait que la peste dure encore plus longtemps, parce qu'ils ont pris le remède pour le poison. Donc c'est un quiproquo, mais on va dire depuis ils ont pris énormément leur revanche.
Vous parliez de Louis XV qui aimait les chats, qui a aboli ces fameux bûchers de la Saint-Jean, mais juste avant lui, Louis XIV, lui, il n'aimait pas les chats. Qu'est-ce qu'il faisait avec les chats quand il était jeune?
Il jetait des cailloux.
Il les jetait dans des bûchers pour s'amuser.
Oui, mais je pense.
La cruauté des hommes envers les chats ou les animaux, elle a toujours existé.
Mais petite parenthèse, vu que vous parlez d'histoire, je pense que Louis XIV était un type très très cruel, très dur, et que c'était un vrai dictateur, et qui s'est lui-même nommé roi soleil.
Mais c'est il y a peut-être une histoire dans son enfance qu'on va raconter dans un instant avec.
Ça m'a l'air hautement contestable.
C'est celui qui est à la fin de l'émission. On va raconter quelque chose sur la sexualité de Louis XIV. On va peut-être comprendre pourquoi il était en colère.
Alors, il y a beaucoup d'autres histoires, Bernard Werber, à découvrir dans votre roman Demain les chats, publié aux éditions Albin Michel. Une dernière pour la route. Pourquoi on doit aux chats la loi de la gravité?
Alors en fait, c'est une erreur sur la légende sur la pomme qui a inspiré à Isaac Newton la gravité. C'est Voltaire qui a inventé le coup de la pomme sur Newton. Enfin, dans la réalité, c'est son chat qui lui est tombé dessus. Et alors que son chat, c'est lui-même qui raconte ça, son chat était sur une branche, donc il est tombé sur son visage, il a égratigné. Et Isaac Newton, à ce moment-là, a vu la lune et s'est dit, tiens, mon chat tombe sur moi, pourquoi la lune ne tombe pas sur moi? Et c'est là où il a commencé à se dire, à chercher la loi d'attirance. Et il a remercié son chat en inventant la chatière. Donc c'est Isaac Newton qui a eu cette idée de permettre aux chats de rentrer et de sortir parce qu'il ne vivait qu'avec des chats, il est mort vierge. Il n'a jamais connu une femme, Isaac Newton. Ah oui, la science, c'est ça.
Ça isole
du monde. Il était très colérique, il n'aimait personne. Il vivait entouré de chats.
On va peut-être raconter l'histoire d'Isaac Newton, tiens, bientôt dans la curiosité.
Ça s'appelle le syndrome de Noé. C'est quand on vit avec plus de 8 animaux. Oui. Ça veut dire qu'on est mieux avec des animaux qu'avec des êtres humains.
Je me tourne vers Gérald Chalan. Combien de chats vous
3.
Avez, Gérald Chalan? 3 et 2 chiens, ça va, vous êtes
femme.
Enceinte.
Et une femme, tout va bien.
Vous êtes sous les 8,
on
ça
est
va.
Sauvés.
C'est notre producteur, on est sauvés.
Mais en tout cas, on doit donc aux chats la loi de gravité, et en tout cas, on doit à Newton les chatières.
Merci infiniment, Bernard Werber, c'était passionnant. On espère que vous reviendrez au micro de la curiosité, on aimerait beaucoup. Vous publiez demain les chats aux éditions Albin Michel.
Vous écoutez RTL.